Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Stéphane Carpentier, le journal de Sébastien Rouxel.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité à la une ce matin, la France, une nouvelle fois victime des intempéries.
Des rafales de vent à près de 200 km/h sur le Cap Corse, un risque de submersion sur le littoral atlantique. La tempête Fabien frappe depuis hier soir la moitié sud du pays. Les témoignages ce matin font état d'arbres arrachés, de barrières effondrées. 15 départements étaient en vigilance orange, la plupart pour vent violent. Ils ne sont plus que 9 désormais. Jean-Marc Terrier, vous êtes sur le bassin d'Arcachon en Gironde, là où le vent a soufflé très fort. Cette nuit, on a enregistré des rafales à près de 150 km/h.
Oui, il est encore par intermittence des bourrasques de vent, vous les entendrez d'ailleurs peut-être derrière moi. Rien de comparable avec cette nuit, hein. Bordeaux 141 km/h. Il faut savoir que la référence en 99, le relevé de la station de Bordeaux-Mérignac indiquait 144 km/h. Alors une nuit agitée, un début de journée compliqué, notamment pour Adrien. Adrien, il tient une petite boutique de primeur sur la route d'Arcachon et sa boutique, elle est installée sous un chapiteau en toile.
C'est pas simple, quoi.
Comment vous avez fait? Comment vous êtes débrouillé?
C'est attaché, tout ce qu'on peut attacher, mais ça arrache plein de vaches, quoi. Ça résiste quand même, mais à force, déjà 3e, 4e tempête cette saison, ça devient compliqué, quoi.
Un bassin d'Arcachon particulièrement secoué, même si nous avons un faible coefficient de marée, eh bien la houle est impressionnante, 9,40 m au large du Cap Ferret et une vague maximale de 19,40 m enregistrée. Sur l'agglomération bordelaise, c'est un pan de mur d'un immeuble de 3 étages qui s'est écroulé. Pas de blessés, mais 8 personnes ont tout de même été relogées. Enfin, il n'y a pas de train sur les lignes de Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye. La SNCF est en train d'envoyer des équipes techniques de reconnaissance pour vérifier s'il n'y a pas d'arbres sur ces voies. Et une fois cette reconnaissance effectuée, le trafic devrait reprendre en fin de matinée.
Jean-Marc Terrier pour RTL. La Corse, également victime de la tempête hivernale. Depuis hier soir, la ville d'Ajaccio est presque coupée du monde. Les autorités ont décidé de fermer tous les accès à la ville jusqu'à 9h. L'aéroport est également fermé jusqu'à demain matin.
Évidemment, RTL suit l'évolution de la situation. On vous tient informé avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux sur le terrain. Vous avez à disposition rtl.fr. Il est le premier à renoncer à ce traitement avantageux dont bénéficie normalement le chef de l'État lorsqu'il quitte l'Élysée.
Emmanuel Macron renonce par avance à sa retraite d'ancien président. Il l'a annoncé hier depuis la Côte d'Ivoire où il est en déplacement depuis 2 jours. Un symbole alors que la contestation contre sa réforme des retraites se poursuit. Le chef de l'État dit vouloir faire preuve de cohérence, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, selon Le Parisien, Emmanuel Macron a décidé de montrer l'exemple. Il renoncera donc au régime spécial de retraite de président de la République. 6 220 euros bruts. Que, selon une loi de 1955, il pourrait toucher dès son départ de l'Élysée, c'est-à-dire dès 44 ans ou 49 ans s'il est réélu. Bien avant donc l'âge d'équilibre des 64 ans. Un nouveau mécanisme sera mis en place pour mettre le chef de l'État en conformité avec le régime universel par points. Ce nouveau régime s'appliquera aussi à ses successeurs. Fini donc cette pension que les anciens présidents ont le droit de cumuler avec d'autres revenus d'activité ou d'autres retraites. À titre d'exemple, François Hollande, qui a liquidé ses droits en quittant l'Élysée, perçoit selon son entourage près de 15 000 euros nets, constitués par plusieurs pensions, celles de président, d'anciens députés, d'anciens présidents du conseil départemental de Corrèze et d'anciens magistrats de la Cour des comptes.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et depuis Abidjan, Emmanuel Macron a aussi appelé les grévistes opposés à la réforme des retraites à suspendre leur mouvement pendant les fêtes. Il est bon de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles, a souligné le président de la République. Le mouvement contre la réforme des retraites, justement, il bénéficie toujours du soutien des Français, même s'il s'effrite légèrement. C'est ce que révèle un sondage IFOP pour le journal du dimanche. 51% d'avis positifs chez les personnes interrogées. C'est 3 points de moins tout de même que la semaine dernière. Ils sont désormais 34% opposés à la grève, soit 4 points de plus qu'il y a 8 jours. La grève qui se poursuit dans les transports, trafic toujours très perturbé du côté de la SNCF comme hier. Un TGV sur 2 seulement en circulation et cela va être encore plus compliqué que ces derniers jours de prendre le métro dans Paris. Seules 2 lignes fonctionnent aujourd'hui dans la capitale.
Tout simplement parce qu'elles sont automatiques, il s'agit de la 1 et de la 14. Sébastien, reste avec nous bien sûr. Dans un instant, on va revenir sur ce nouveau drame familial à Saint-Raphaël dans le Var, où une ado a avoué le meurtre du compagnon violent de sa mère. A tout de suite.
RTL Matin.
Faire un...
Il est 8h06 et c'est la suite de RTL Matin avec Stéphane Carpentier et la suite du journal de Sébastien Rouxel.
Elle dit avoir voulu défendre sa mère face aux violences de son compagnon.
Une adolescente de 15 ans placée en garde à vue hier à Fréjus, c'est dans le Var, soupçonnée du meurtre de son beau-père, elle lui aurait asséné plusieurs coups de couteau à Gatlandais.
Oui, le drame se serait déroulé dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h du matin. Une jeune fille âgée de 15 ans appelle les secours qui se rendent sur place dans un appartement situé à Saint-Raphaël. À l'intérieur, ils découvrent le corps d'un homme de 38 ans qui a reçu des coups de couteau dans le dos. La jeune fille qui a prévenu les secours est sur place et l'homme à terre est son beau-père, transporté en garde à vue. La jeune fille mineure explique aux policiers du commissariat de Fréjus que c'est bien elle qui a asséné les coups de couteau à son beau-père. Elle explique qu'il était violent, qu'il battait régulièrement sa mère et que ce vendredi soir, une fois de plus, il la battait. La jeune fille est alors intervenue pour l'en empêcher, pour protéger sa mère, explique-t-elle. La mère de la jeune fille était d'ailleurs hier, elle aussi, au commissariat où elle était entendue comme témoin. Son compagnon, lui, n'était visiblement pas connu des services de police. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Draguignan qui va tenter d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame familial.
Agathe Landais pour RTL.
Le football, Monaco retrouve des couleurs juste avant la trêve hivernale.
Les joueurs de Leonardo Jardim ont cartonné face à Lille lors de la 19e journée de Ligue 1, c'était hier soir. Ils s'imposent 5 buts à 1 face aux Dogs. Un sursaut pour les Monégasques qui ont connu une première partie de saison en demi-teinte, mais pas sûr que cela suffise à sauver leur entraîneur, Michael Lefebvre.
Oui, malgré cette éclatante victoire, la situation de Leonardo Jardim à la tête de l'AS Monaco est toujours aussi floue. Et ce n'est pas la déclaration laconique du vice-président Oleg Petrov après la rencontre qui va clarifier les choses.
Nous pensons que nous devons faire mieux. Dans les jours à venir, nous allons tout analyser et nous ferons des ajustements que l'on rendra public. Et nous pensons rendre notre équipe plus forte. Nos objectifs n'ont pas changé et nous nous battrons encore pour les atteindre.
Interrogé en conférence de presse quelques minutes auparavant pour savoir s'il serait toujours entraîneur de l'AS en 2020, Leonardo Jardim n'en savait pas plus lui aussi.
Je ne sais pas. Parce que moi, après, je ne vais pas aller avec mon dirigeant, parce que tout ce bruit, je ne sais pas pourquoi. Avec moi, personne ne parlait.
Les joueurs rouges et blancs ont en tout cas montré hier soir qu'ils n'avaient pas lâché leur coach. Mais cela ne sera peut-être pas suffisant.
Michael Lefebvre. Dans les autres matchs, hier soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 face à Amiens. Victoire également pour Rennes face à Bordeaux. Score final 1-0. Ce qui permet au club breton de monter sur la troisième marche du podium. Pas de vainqueur entre Dijon et Metz qui se quittent à 2-2. Match nul également pour Reims et Lyon 1-1. Et puis Saint-Etienne concède une défaite à Strasbourg 2-1, tout comme Nantes face à Angers sur le même score. Nice s'impose largement contre Toulouse 3-0, écart encore plus grand pour Montpellier qui bat Brest 4-0. L'Olympique de Marseille enfin bat Nîmes 3-1 et conforte ainsi sa deuxième place en championnat. Et
évidemment, tous les détails, tous les résultats, les classements alors qu'ils partent en vacances, tous ces joueurs de Ligue 1, vous allez cliquer sur RTL.fr. C'est un moment, Sébastien, où l'on se dispute parfois, où l'on débat souvent, mais c'est surtout un moment où on se fait plaisir. Côté nourriture.
Le repas du réveillon de Noël et ses dilemmes cornéliens, saumon ou foie gras, bûche ou truffe au chocolat. Plus que 2 jours pour se préparer, alors c'est le grand rush sur les marchés, notamment à Bayeux, où vous êtes allé faire vos emplettes, Julien Caillard.
Oui, marché bondé forcément, car un repas de réveillon, ça ne s'improvise pas.
Donc j'aurais voulu des huîtres numéro 3.
Et avec ceci, madame.
Et des petites rillettes de saumon fumé aussi.
Ici, tout le monde se presse, notamment devant les stands de volaille. Marie a fait son choix.
Chapon, voilà, vraiment traditionnel. Tout le monde voulait chapon. Je crois que j'en ai mangé que 2 fois dans ma vie, alors... Mais je vais regarder sur internet, je vais regarder préparation du chapon, et voilà. Mais ça va le faire au feeling.
Alors au feeling, attention, mieux vaut côté cuisson suivre les conseils de Vincent, l'éleveur de ce chapon.
Tout doux. 120 degrés, 130 degrés maximum.
Et côté accompagnement, évitez la stratégie de Gisèle du genre à faire exploser le taux de cholestérol de ses convives.
J'accompagne ça avec du boudin blanc. Je fais une farce à l'intérieur. Autour, ben, je mets aussi des petits morceaux de boudin blanc et boudin noir. C'est excellent.
Excellent et très léger, bien sûr. D'où ce conseil de Thierry, des fruits au dessert.
Eh ben, le litchi, c'est un produit de la Réunion. C'est idéal avec une petite grappe de muscat, raisin, voilà. C'est extra.
Extra et parfait avant le digestif. En Normandie, un bon calva. Évidemment.
Julien Caillard sur le marché de Bayeux pour RTL.
Merci pour tout ça, Sébastien. Vous revenez à 9h nous informer, avec bien sûr, RTL.fr à disposition, puisque nous sommes dans Noël quasiment. Depuis tout à l'heure, 7h, vous assurez la programmation musicale. Julia Molko va nous rejoindre dans 5 minutes avec sa playlist à elle, et je vous assure que c'est prometteur. Vous, vous choisissez, et Marie-Jo, par exemple, elle voudrait Slade. Voilà vos choix sur
merci,
la page Facebook.
Merci Marie-Jo.
C'était un cadeau pour Valérie Quintin en particulier. On lui doit bien ça parce qu'elle nous a habillés hein, ce matin avec ses pulls. On a les photos sur la page Facebook. Vous êtes très nombreux à commenter tout cela. On file où aujourd'hui?